Radio Barque, 9e, donc, pour cette troisième partie, notre invité est Jean-Claude Baudraco, alors un homme de théâtre, pour changer un petit peu du monde politique dans lequel on baigne habituellement. Jean-Claude Baudraco, vous faites du théâtre depuis pas mal d'années, vous avez fait pas mal d'autres choses aussi, on va y revenir un petit peu sur votre cursus. Vous êtes Marseillais de naissance, ce qui probablement a déterminé ou prédéterminé cette envie de faire du théâtre, et pas n'importe lequel, le théâtre de Pagnol. Alors aujourd'hui, vous êtes responsable d'une compagnie qui s'appelle Baudraco et qui joue exclusivement ou pour le moment exclusivement du Pagnol.
Pour le moment, c'est vrai que je suis né au milieu des années 50, en 1956 plus précisément, à un jet de pierre du Vieux-Port. Mais je suis originaire d'Armissan du côté de mon grand-père maternel qui s'est engagé dans la marine à 29 et qui a rencontré dans un petit balletti, comme on dit à Marseille, ma grand-mère, et ils ont fait un tango serré, ça a démarré comme ça.
Ouais. Alors c'est parti dans un balletti de Marseille.
Voilà, exactement, c'est pour ça que je venais, depuis que je suis né, régulièrement, tous les étés, à Armissan, passer les vacances à Armissan, donc je suis pratiquement armissané depuis le début. Et donc Pagnol, oui. Pourquoi Pagnol? Ben, ça fait partie de notre patrimoine. Et j'avais l'impression, quand j'étais petit, que je regardais les films de Pagnol, je disais, mais ces gens-là parlent comme mes oncles et mes tantes. Ils étaient un petit peu de ma famille. Voilà. Et puis, bon, c'est une grande passion. J'ai toujours eu envie de jouer la comédie. Mais comme autour de moi, à Marseille, comme à Armissan, il y avait pratiquement que des viticulteurs, des ouvriers, des joueurs de boules, de pétanque, etc. Je ne me voyais pas partir à Paris avec mon baluchon et pour dire je suis Jean-Claude Baudraco, j'aimerais faire du théâtre ou du cinéma et taper à quelle porte. Voilà. Mais effectivement, je joue essentiellement avec ma structure. Après, je me vends en tant que simple comédien.
Oui, que comédien, individuellement.
Individuellement. Donc, je me rends disponible pour des films, pour les téléfilms, des publicités, pour jouer toutes sortes de choses variées. Mais avec ma structure, c'est essentiellement du Pagnol, du théâtre méridional, ou des adaptations théâtrales tirées de nouvelles ou de films. Mmh. Voilà.
Oui, parce que parfois, Pagnol, c'était pas toujours une pièce au démarrage. Parfois, voilà. C'était un film. Il a fait beaucoup de cinéma, Pagnol.
Et beaucoup de cinéma. C'est-à-dire, il a commencé à faire du cinéma quand, en 1929, il est parti à Londres. Il est parti à Londres pour voir le premier film parlant qui s'appelait Chanteur de jazz avec Al Jolson. Et jusque-là, il écrivait pour le théâtre. Il avait écrit, bon, Topaz, etc., Les Marchands de gloire, même Marius était en écriture. Et puis, il a dit, le cinéma parle, plus personne ne pourra le faire taire. Et à partir de là, il a écrit pour le cinéma. Il a même réalisé à la fin ses propres films. Et donc, les pièces que j'ai montées, que j'ai adaptées, pour la plupart, sont tirés de films. Par exemple, on va prendre l'exemple de la fille du Puisatier. C'est moi qui ai créé la première adaptation théâtrale depuis que le film existe, depuis 1940.
C'est-à-dire, vous avez réécrit un scénario adapté à la scène,
voilà,
au théâtre.
Un scénario, ça serait pour un film, mais d'après le scénario du film, j'ai écrit l'adaptation théâtrale et j'ai créé la scénographie. Alors c'est assez difficile parce que bon, dans un film avec une caméra on fait ce qu'on veut, on peut filmer en extérieur comme en intérieur, il suffit de se déplacer, mais concentrer tout ça sur un plateau, sur une scène, c'est assez difficile. C'est pour ça que j'ai un ami qui s'appelle Gilles Faudobel qui m'avait conçu quelque chose d'astucieux, des petits panneaux pivotants où l'on passe d'un décor à un autre, une fleur qui se ferme, qui donne naissance à une autre fleur, et c'est comme ça qu'on arrive à adapter un film au théâtre.
Pour suivre le rythme du cinéma, en quelque
voilà,
sorte.
Ouais.
Et alors, Jean-Claude Baudraco, vous n'avez pas toujours fait du théâtre, vous avez fait un certain nombre de métiers, et notamment de la restauration à Armissan, ce qui n'est pas tout à fait le même métier. Donc vous avez un cursus assez varié avant de faire du théâtre.
Oui, c'est ça. J'ai toujours essayé d'avoir une activité qui correspond à mes aspirations profondes. J'ai toujours aimé faire la cuisine. Donc j'aimais faire la soupe de moule avec les croutons et la rouille, les civets de lièvre, etc. etc. Et bien c'est une partie de ma vie où j'ai décidé de faire la cuisine pour me faire plaisir et faire plaisir aux autres. Et d'ailleurs, j'ai mené de front les deux activités de comédien et de restaurateur. Mmh. Et c'est cette période-là qui a servi de toboggan pour que, finalement, je fasse exclusivement le comédien.
Ah, c'est la restauration qui vous
voilà,
a amené à la scène.
C'est ça, c'est aussi ma rencontre avec Pierre Richard. Donc, ça s'est passé dans les années 90. Et j'avais joué dans des petites pièces de théâtre, mais je ne me voyais pas, comme je vous dis, partir à Paris, taper à quelle porte, je ne savais pas. Et j'avais tourné dans un film, au début des années 90, un film qui s'appelait Petit Nuage. Non, c'était un film suédois, un réalisateur suédois, Mensonge Blanc, voilà.
Mais en français, quand même, vous avez tourné.
Oui, j'ai tourné en français.
Rassurez-nous.
Je jouais le rôle d'un propriétaire, c'est ça, viticulteur, oui, c'est ça. Et ça a été le pied à l'étrier. Après, il y a eu Pierre Richard, ma rencontre avec Pierre Richard, qui m'a écrit un rôle dans son film en 97 qui s'appelait Droit dans le mur. Et puis, parallèlement, j'ai fait ça aurait pu l'être. Et c'est parti comme ça. C'est pour ça. Alors, j'ai organisé, parallèlement, dans le restaurant, des soirées repas spectacles, avec des bribes de scènes de Pagnol, de la trilogie, de Cigalon. La première pièce que j'ai créée, c'était en 97, c'était Cigalon, le cuisinier qui ne fait manger personne, sinon que lui.
Oui, alors donc, vous avez presque, si je puis dire, créé un concept, le resto théâtral.
C'est ça, il venait du monde. Il y avait le clan des tractions avant, il y en a qui venaient de Marseille, de Toulouse, de Perpignan. Ils réservaient l'hôtel et puis ils venaient voir. Ils avaient un repas spectacle et ça durait 3 heures. Ils mangeaient pas pendant 3 heures, heureusement, mais ils mangeaient et puis il y avait le spectacle ensuite.
Voilà. Et tout ça, donc, à Armisan. Et Jean-Claude Bourdraco, vous avez expliqué pourquoi, bien qu'étant né à Marseille, vous êtes de souche armisanaise.
C'est ça.
Donc, c'est là que les choses se sont développées, en quelque sorte. Donc vous étiez, si je puis dire, le Marseillais de service qui faisait la bouillabaisse dans son resto, mais qui, bien entendu, en plus de ça, apportait une autre touche marseillaise.
Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. C'était cette culture marseillaise, puisque je suis né donc à Marseille. Et cette passion, c'est ce qui explique la passion pour Marcel Pagnol. Et puis, on va dire que le terrain est beaucoup plus propice de jouer Pagnol que de jouer Shakespeare.
Oui, par exemple.
D'ailleurs, vous avez entendu, quand je dis Shakespeare, on dirait un Auvergnat qui est en train de mourir.
Exactement. Je vous vois mal, effectivement, en attendant Godot.
Samuel Beckett, j'adore, c'est très joli. Et puis, on est très sobre en décor. Un arbre, un banc.
Exactement.
Et alors donc, à partir de là, dire « je vais jouer du Pagnol », c'est bien joli, mais encore faut-il trouver d'autres acteurs et adapter à ce genre de théâtre.
Voilà, c'est ça. Bon, ben, j'ai la chance d'avoir ce qui se fait de mieux dans le répertoire. Et c'est vrai que donc nous tournons dans aussi coin de l'Hexagone et même au-delà, et j'ai avec moi des comédiens extraordinaires comme Jean-Paul Jauguin, qui joue les rôles que jouait Charpin dans les films respectifs de Pagnol que nous connaissions.
Vous avez trouvé aussi votre Monsieur Brun
Oui, Monsieur Brun. Bon, actuellement, Monsieur Brun, c'est Cédric Collat qui joue beaucoup sur Paris. C'est un Parisien. Ça fait que j'engage aussi 3 Parisiens, 3 ou 4, descendent de Paris. Mais certains sont méridionaux, mais ils habitent à Paris. Bernard Larmande, qui était le médecin légiste de Navarro, des figures familières au paysage audiovisuel français que les gens connaissent.
Et voilà. Donc, vous avez une troupe qui tourne sur les régions francophones, la France et d'autres pays francophones.
C'est ça. Nous venons de jouer la semaine dernière à Saviez, à côté de Sion, c'est-à-dire dans le Valais. Nous avons joué 3 fois au théâtre Le Baladin, La fille du puisatier, qui a remporté un grand succès. C'était plein, 3 jours.
Et alors, justement, les Suisses, comment perçoivent-ils Pagnol? Parce que c'est presque étranger pour eux.
Mais c'est un public extraordinaire. Alors, pour les Suisses, comme on va dire les gens du Nord, hein, de la partie Nord de la France, pour eux, c'est exotique.
Oui.
Alors que chez nous, c'est culturel. C'est comme si, par exemple, des gitans d'Andalousie vont jouer le flamenco là-bas. Ils vont dire des vrais de vrais sont venus chez nous. Et ici aussi, on a des gens tous acquis à notre cause, parce que ça fait partie, disons, du patrimoine. Ils s'y reconnaissent.
Alors, à propos de patrimoine, donc vous êtes né à Marseille dans les années 50. Bon, on est aujourd'hui, en 2018, on sait très bien que Marseille, c'est autre chose, c'est une autre allure. Quel regard jetez-vous sur qu'est-ce qu'il en, j'ai envie de vous dire, comme disait Charles Trenet, que reste-t-il de ce Marseille-là ?
Ce Marseille, je ne le reconnais plus, puisque il faut dire que moi, j'habitais en banlieue. J'habitais à Saint-Antoine, c'était les quartiers nord. Ma grand-mère habitait donc un quartier nord, ça s'appelle le Vallon des Tuves, les Égalades, tout ça. Et c'était la campagne. C'était la campagne. Maintenant, je suis retourné, c'est des cités, des HLM de partout, c'est du béton. Alors que mon grand-père partait avec la mobilette, on avait un petit jardin, il faisait le jardin, c'était la campagne. On allait chercher le lait à la fin des années 50 et début 60, chez le laitier, il y avait le fermier, pas loin. Et il y avait des cochons, ils élevaient des cochons, il y avait l'épicière qui vendait du grain, qui avait le crayon sur le, qui pesait avec les petits, il y avait des poils, vous voyez, à l'ancienne. Et mon grand-père allait chasser à 150 mètres de chez lui. Il avait le poste à Grive, avec la mobilette. C'était la campagne.
Il n'y avait pas des colombières ou presque, enfin des
palombières.
Des palombières, je veux dire.
Oui. Non, des palombes, là non, c'est surtout la Grive. Ils appelaient ça la Gachon. Ouais. Ils allaient chasser à la Gachon.
Donc ça, effectivement, c'est un monde qui a complètement changé. Aujourd'hui, vous parliez, Jean-Claude Baudraco, du paysage, mais aussi l'accent des gens, les mentalités, tout ça est complètement transformé.
Ça a changé. Les accents change, que ce soit dans tout le Midi, dans le Languedoc ou même dans la Provence, on ne parle plus de la même manière. Il y a un drôle d'accent. Ils ajoutent des E quand il n'y en a pas, ils n'en mettent pas quand il y en a. C'est un accent bizarre. Et d'ailleurs, je vois, moi j'ai l'accent méridional, quand je vais dans les castings à Avignon, à Montpellier, à Sète, à Toulouse, mais je suis pratiquement le seul à avoir l'accent méridional.
Ah bon, mais
vous dites.
Alors ça, on me dit toujours, mais vous
parlez. Avez trop d'accent.
Oui, vous parlez toujours comme ça, vous. J'ai dit non seulement le mardi et le mercredi. Et vous vous rendez compte, j'ai fait un casting pour Plus belle la vie, ça se passe à Marseille, ils m'ont pas pris parce que j'avais l'accent méridional.
C'est ça.
Nous sommes dans le paradoxe.
Ah oui,
ils veulent les mouettes, le ciel bleu, le soleil, la mer, mais ils veulent pas l'accent. Ils ne veulent pas, nous.
Oui, mais vous avez tout à fait raison. Regardez, moi, je regardais il n'y a pas très longtemps, en fait, une séquence de ce feuilleton. Il n'y a aucun des personnages qui vivent tous à Marseille, quoi.
Oui, oui.
Aucun ne parle.
Ah, ce qui passe à Brest.
Ça peut se passer. Ce qui passe à la télé, oui.
Mais ce qui veut dire, quoi, on peut être d'un lieu et en même temps donner une image universelle. Parce qu'effectivement, pour vendre ce genre de feuilleton, il faut que l'accent soit totalement neutre, qu'il puisse être entendu par tout le monde, si je puis dire.
C'est exactement ça.
C'est terrible, quoi.
C'est terrible.
Nivellement, en fait, des cultures, des modes d'être, d'expression, qui est un abaissement, quoi.
Oui. Complètement. Mais, et c'est comme si tous les fromages avaient le même goût.
Exactement.
Et alors, ça. Paradoxalement, quand on se mêle de faire de la politique et de l'écologie, on parle de biodiversité à protéger. Excusez-moi, mais on est complètement à l'inverse de cette chose-là.
Mais à Armisan, je suis à peu près persuadé qu'à Armisan, il a constaté le même phénomène, en fait.
Oui, il y a le même phénomène. Alors, je constate que les enfants et les petits-enfants de mes amis parlent au point de vue maintenant.
C'est ça. Ils parlent comme la télévision.
Comme celui qui présente à la météo.
C'est ça.
Oui. Et alors, vous parliez, Jean-Claude Baudraco, de Pierre Richard, donc un nordique devenu gruissanais qui vous a probablement aidé, donc, et mis le pied à l'étrier. Vous avez tourné avec lui dans des films aussi, je crois.
Oui, j'ai tourné avec lui dans Droit dans le mur. Après, nous n'avons plus tourné ensemble, mais on se voit régulièrement parce que nous avons une amitié fusionnelle, nous sommes très amis. On se voit régulièrement quand il vient, quand il prend ses quartiers d'été à partir de mi-juin jusqu'à mi-septembre. On se voit régulièrement. Là, on ne s'est pas vu ces derniers temps parce que lui, il avait beaucoup de choses à faire. Et moi, j'ai une grosse tournée en été. Ça fait qu'on ne s'est vu qu'une fois. Et alors qu'on se voyait pratiquement toutes les semaines pour faire la partie de pétanque et la petite grillade ou la soupe de moule.
Voilà. Oui, alors avec un duo improbable, si je puis dire, le gars du Nord, presque le ch'ti avec le gars du Sud.
Il est né à Valenciennes, en pleine chez les ch'timis, il est de Valenciennes.
Oui, c'est ça. Et alors, avez-vous à un moment envisagé ou rêvé simplement de faire un film ensemble où vous seriez les deux principaux personnages?
Oui, bien sûr. Seulement, lui, c'est un grand comédien de notoriété. Et moi, ce n'est pas le cas. Je fais mon métier, mais enfin, je ne représente rien pour l'arrêt au page cinématographique français.
Oui, mais ça n'empêcherait pas d'envisager un film où les deux occuperaient des rôles essentiels.
Ah, complètement.
Mais il faudrait que ça soit écrit sur mesure, justement,
oui,
pour le ch'ti et le méridional.
C'est ça. Mais il y avait Marco Pico, qui est aussi un ami commun, et metteur en scène, réalisateur, qui a arrêté l'activité, qui avait réalisé avec Pierre Richard la Cavale des Fous et Un nuage entre les dents. Avait en écriture, il voulait écrire pour moi et pour vous rappeler, comment il s'appelait, le ch'timi là, qui est mort, qui était un peu fort là, Ronnie Cooter, justement pour, avant que Danny Boone réalise le film Les Ch'tis, c'était 10 ans auparavant. Il avait en écriture, disons, de mettre en scène le méridional et le ch'timi, et puis Ronnie Cooter est mort. Alors ça fait que c'est tombé à l'eau.
Ah oui, donc cette histoire, le thème était
le
déjà
thème était
dans
déjà,
les têtes.
Enfin. Et ça aurait pu être, comme vous dites, ça aurait pu être avec Pierre Richard. On retrouve les deux personnages diamétralement opposés, au point de vue culturellement. Voilà.
Oui. Donc pour le moment, c'est encore dans les cahiers ou dans les rêves.
Ah, mais ça, jouer avec Pierre Richard, bien sûr. Parce que...
Mais il faut trouver quelqu'un qui vous écrit l'histoire.
Bien sûr, c'est exactement ça. Oui.
Ouais. Alors donc bon, si quelqu'un a la plume qui le démange, a de l'inspiration, on lance un appel, Michel.
Non, je n'ai pas la plume pour faire ce genre de choses. Mais par contre, une question peut-être un peu provocante. Mais est-ce que vous avez eu ici, dans cette région, en fait, dans le Narbonnais en général? Est-ce qu'il vous semble que cette région dispose d'une salle qui pourrait être adaptée effectivement à votre proposition artistique et qui jusqu'à aujourd'hui bon, ne semble-t-il pas répondu à vos souhaits ou à vos désirs, formulés ou pas?
Vous parlez d'une salle, d'une salle de théâtre.
Ouais.
Ben, vous savez, nous avions joué au théâtre à la scène nationale il y a quelques années quand il y avait M. Massado.
C'est ça.
Mais comme ce que je proposais, soi-disant, ça ne répondait pas au cahier de charge, il nous avait accepté, contre écus sonnant et trébuchant, on va dire, pour jouer Marius et Fanny, mais hors programmation.
Hors
programmation, avec l'aide de Jacques Bascou, qui était maire à l'époque. Et nous avions rempli.
Oui, hors programmation, bien dans le théâtre Salle Rouge.
Oui, oui.
Ce qui prouve que la scène nationale n'empêche pas de faire d'autres spectacles très populaires.
Voilà, surtout à cette époque, maintenant, je ne sais pas. Et puis, justement, je n'insiste pas là-dessus pour rejouer à la scène nationale, parce que depuis quelques années, nous sommes intégrés avec la Tempora, qui est l'organe artistique du Grand Narbonne. Et donc, régulièrement, nous jouons les pièces que nous... les dernières pièces que nous avons créées.
Voilà, que vous tournez sur la Narbonnaise.
Nous avons joué La femme du boulanger, La fille du puisatier, dans à peu près chaque fois 12 ou 15 communes de l'immédiate région narbonnaise, qui font partie
dans le Grand Narbonne.
Du Grand Narbonne, voilà. Alors c'est pour ça que ça me va très bien de faire comme ça à Narbonne, plutôt que de jouer une fois dans une grande salle. C'est bien d'aller jouer un petit peu de partout dans les petites communes.
Voilà, mais l'un n'empêche pas l'autre.
L'un n'empêche pas l'autre.
Cela va de soi. Oui, pour terminer, Jean-Claude Baudraco, au niveau... Alors, quelqu'un comme vous a toujours des projets. Vous parliez d'adaptation. J'ai lu, je crois, chez un confrère de la presse écrite, que vous intéresseriez à Daudet. Une adaptation de Daudet. Qu'en est-il?
Oui, c'est ça. Mais j'aimerais coucher sur le papier, écrire soit un scénario, soit une pièce. C'est ça qu'il faut que je le voie. D'après
les lettres de Montmoulin,
par
exemple,
Montmoulin qui n'ont pas été utilisées et qui sont excellentes, c'est-à-dire la diligence de Beaucaire, les deux auberges et les vieux, et avec un fil conducteur qui englobe ces trois lettres.
Donc vous travaillez là-dessus?
Oui, j'ai envie de le faire. Oui.
Voilà. Alors, mais c'est-à-dire qu'il a encore, il faut écrire un texte théâtral inspiré de la prose de Daudet.
Voilà.
Et y a-t-il d'autres auteurs méridionaux, provençaux ou languedociens, je ne sais pas, qui vous inspirent aussi et qui vous disent...
Il y avait Jean Écart aussi, Morin des Morts, l'illustre Morin, ça se passe aussi dans le Midi. Il y a aussi un des faits libres, c'était Paul Arène, qui était de Sisteron et qui avait écrit son œuvre Jeanne des Figues, qui était bien ami avec Alphonse Daudet. D'ailleurs, paraît-il, je ne sais pas, parmi certaines personnes averties, il aurait Il aurait écrit la plupart des lettres de Montmoulin, ça c'est à vérifier.
Oui,
c'est un peu comme,
comme
Corneille avec Molière.
Oui, ou comme Shakespeare qui n'a jamais existé.
Voilà. Quelqu'un qui avait le même nom que lui.
Voilà, ont été écrites par quelqu'un qui se faisait appeler Shakespeare.
C'était Alphonse Allais qui l'avait dit.
Et nombre de grands peintres, y compris contemporains, qui effectivement signent des toiles qui n'ont pas réalisé en totalité.
Picasso, notamment. Voilà, écoutez, merci Jean-Claude Bodraco. C'est sur ces projets donc de mise en scène prochaine, peut-être du Daudet, peut-être d'autres, que nous nous quittons pour ce Radio Bac numéro 9. Le prochain invité, alors on sortira encore de la politique cette fois-ci, nous recevrons Louis Privat, qui est alors le célèbre créateur et patron des grands buffets, j'imagine, et qui est une autre grande institution du Narbonnais. Il fait partie de ces gens qui eux aussi font la vie narbonnaise, si je puis dire, sans parler de son goût pour d'autres choses comme l'art, mais
comme l'art contemporain. Oui.
Voilà, mais bien
entendu, c'est un épicurien.
Nous y reviendrons avec Louis Privat pour le prochain Radio Barque. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.
Merci pour votre accueil.